même si les rencontres sont denses et fréquentes, et comme heureusement il y a ces temps de méditation et de silence pour se poser, laisser reposer la parole, ou faire lever la vraie parole qui est divine, j'espère tout de même que ce thème de l'amitié qui est précieux vous est aussi chose légère, j'allais dire, parce que c'est le sens aussi de l'amitié, qui n'est pas un fardeau, hein, qui est une chose légère à porter, même si elle est exigeante. Nous avons vu depuis hier, et Lawrence Freeman l'a ô combien rappelé très finement ce matin, que l'amitié, la véritable amitié, que l'on qualifie de spirituelle comme on qualifie l'art de sacré, alors que la véritable démarche artistique est justement d'ordre spirituel, l'amitié véritable a sa source en Dieu, Dieu qui est considéré, prié, louangé comme le véritable ami. Et cette amitié qui a sa source en Dieu est amenée à ruisseler sur ce monde, à rayonner sur ce monde, et donc à porter des fruits. Et ce thème de la fécondité de l'amitié, c'est ce que nous allons esquisser un peu cet après-midi, étant donné qu'il s'agit toujours d'une invitation pour chacun de nous aller se nourrir aux sources du christianisme, ce qui fait notre tradition. Quelle merveille depuis des siècles, hein, et en Orient comme en Occident. Alors la fécondité de l'amitié, commençons également par la philosophie qu'on dit antique, mais qui est toujours jeune, la philosophie de notre cher ami Socrate. Et dans le dialogue célèbre, donc vous savez que Platon, quelle chance, Platon a rencontré Socrate alors qu'il avait 20 ans, vous imaginez, et ensuite il lui a suffisamment rendu hommage dans tous ses dialogues. Et dans le banquet, qui est censé avoir eu lieu vers l'an 416 avant Jésus-Christ, le banquet est entièrement tourné, tourne autour du thème de l'amour. Et, entre parenthèses, l'amour platonicien, qui est en effet éros, et non pas agapé, les chrétiens vont traduire, vont dire agapé pour justement se démarquer de la tradition grecque, jugée plus ou moins païenne, bon maintenant on a un peu changé de point de vue, mais l'amour qui est éros, en effet, pour Platon, pour Socrate, c'est désir d'immortalité. Hein, ça n'a rien à voir avec convoitise de l'autre et autres, turpitudes, hein, ou même joyeux érotisme. Eros est une énergie de transfiguration et d'élévation et d'illumination, c'est ça l'éros platonicien. Et dans le banquet, où vous connaissez l'histoire, ça existe encore de nos jours dans certains cercles où on célèbre le banquet platonicien, et bien après avoir partagé un repas, musique, danse, etc., et bien plusieurs personnes, enfin les convives, sont amenées, invitées à parler sur l'amour. Le grand sujet, la grande question. Et chacun, donc là il y a un médecin, il y a un dramaturge, il y a Aristophane, comique et aussi très savant, qui est un peu trop bu, donc il passe son tour, et chacun dit ce qu'il en est de l'amour. Bon, c'est là, dans le banquet, qu'il y a ce fameux mythe qui va durer longtemps jusqu'à nos jours, de l'androgyne. Hein, c'est vraiment dans le banquet de Platon où il y a ces deux moitiés qui se cherchent pour faire un, hein, pour expliquer, si on peut expliquer, l'amour, l'attrait entre deux personnes. Et dans le banquet, donc, Socrate va distinguer la fécondité selon le corps, j'allais dire celui, la fécondité la plus commune, la plus connue, à savoir celle qui engendre des enfants, parce que, dit-il, eh bien, les parents, ils pensent à leur héritage, à leur survie, à l'avenir, et ils pensent qu'en faisant des enfants, eh bien, ils survivront, en effet, nous le savons encore aujourd'hui. Mais à côté de cette fécondité selon le corps, il y a ceux qui sont féconds selon l'esprit, l'esprit au sens de spirituel, hein, selon l'esprit. Et cette fécondité spirituelle, les enfants de l'esprit, eh bien, le sens de cette fécondité, c'est d'enfanter les vertus dans l'âme, ou la sagesse dans l'âme, faire éclore la sagesse dans l'âme. Et maintenant, on le sait, enfin, quand on parle de quelqu'un en disant c'est un fils spirituel d'eux ou une fille spirituelle d'eux, on sait bien que ça n'a rien à voir avec la famille, les liens du sang, mais que c'est l'esprit. Il y a toute une lignée, nous avons toujours tendance à nous référer à notre descendance, à notre famille charnelle, j'allais dire, qui n'est pas méprisable, et au détriment, nous oublions tellement souvent la lignée céleste, la lignée spirituelle. Les liens du sang, c'est par rapport à notre existence terrestre, mais les liens spirituels, les liens de l'esprit, cette lignée spirituelle, c'est pour ça qu'on peut se sentir contemporain, mais contemporain des grands vivants, même s'ils ont vécu il y a 20 siècles ou il y a 25 siècles. Les contemporains, les grands vivants sont ceux justement par lesquels nous sommes reliés par l'esprit, la lignée céleste. Donc, dès la philosophie antique, il y a cette distinction entre... Et les deux ne sont pas contradictoires. En effet, on peut avoir des enfants et être également relié à la lignée céleste et également engendrer des vertus dans l'âme et naître à la sagesse. Et justement, l'éducation, on le sait, c'est une élévation. C'est pour édifier l'être intérieur. Donc l'éducation, ce n'est pas simplement des programmes et des horaires comme on nous en rebat les oreilles de nos jours. L'éducation, c'est édifier l'être intérieur. Édifier, faire l'homme et dûment, disait Montaigne. Faire l'homme et complètement. Et faire l'homme, ça commence par les vertus. Les vertus qui sont encore une fois de la tradition philosophique antique. C'est ça qui est magnifique. Repris, en effet, c'était repris par le christianisme qui a ajouté les fameuses trois grandes vertus donc dites théologales, mais les quatre vertus qu'on appelle cardinales maintenant chez les chrétiens sont totalement, viennent de la tradition philosophique antique. Je fais des petites parenthèses, mais c'est toujours intéressant de voir justement ces racines, c'est ça qui est magnifique, qu'il n'y a pas rupture dans l'histoire, dans l'histoire spirituelle de l'humanité, il n'y a pas rupture, donc il n'y a pas conflit. C'est un immense embrassement, vous voyez, et acheminement. Et dans le christianisme, alors là, je ne vais pas vous le rappeler, mais bien sûr, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et la parabole du figuier stérile peut en effet troubler ou choquer plus d'un. En effet, le figuier stérile est maudit parce que ce n'est pas un châtiment terrible. Ça veut dire, le rappel, vous êtes amené à fleurir et à porter des fruits. La visée de l'amitié spirituelle, en effet, ce n'est pas simplement se regarder l'un l'autre, ni même se soutenir sur le chemin de la sainteté. Mais c'est rayonner tout autour. C'est pas simplement une histoire entre deux amis, deux personnes, même au nom du Seigneur. Il s'agit, nous sommes encore dans un corps de chair, nous sommes encore ici-bas ou dans ce beau monde, ou dans ce monde agité, et il s'agit en effet d'incarner ce que notre foi. Il s'agit d'agir, de témoigner, ou de proposer des actions concrètes. La valeur de témoignage est quelque chose de très important, puisque nous sommes dans le monde temporel. Et à travers l'histoire du christianisme, j'ai choisi aussi quelques repères pour vous donner envie d'aller mieux connaître ou retrouver ces grandes figures du christianisme, parce que il est magnifique de voir que le christianisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui dans l'histoire, je ne parle pas de la source et du Christ, mais il ne serait pas dans ce monde humain ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'amitié. Puisque qu'il s'agisse de traités, qu'il s'agisse de missions, qu'il s'agisse d'ordres religieux, presque tout à l'origine est fondé sur une amitié spirituelle entre deux ou entre plusieurs personnes humaines. C'est ça qui est magnifique. Et je commencerai par une des plus belles et des plus beaux et des plus anciens exemples d'amis spirituels. Et vous connaissez bien sûr au moins le nom de l'un, puisque je pense qu'il est très lié à la méditation chrétienne. Là, nous sommes à la fin du IVe siècle, début Ve siècle, et il s'agit de Jean Cassien et de son très cher ami Germain. Jean Cassien et Germain. Alors on pense bien sûr à ce moment-là il n'y a pas d'état civil et on ne se préoccupe pas trop d'identité comme on dit de nos jours. Ce sont certainement deux amis qui sont de Gaulle, hein, de la Gaule, et tout jeunes ils sont liés d'une très forte amitié qui aussitôt est orienté vers une élévation spirituelle. Ils veulent s'engager, même disent-ils, dans la milice spirituelle, ce terme étant, puisque nous sommes, en tant que chrétiens aussi, nous sommes des combattants de Dieu, des soldats de Dieu. Hein, et ça n'a aucune notion de haine et de destruction. C'est l'énergie, c'est la vigueur et c'est la vaillance, hein, des valeurs quelque peu oubliées de nos jours. La force est une vertu cardinale. La force. Et on entend, quand on dit de nos jours la force, c'est brutalité, etc. La force, vaillance, courage, fermeté d'âme, quel beau terme. La force est une vertu majeure, hein, pour ne pas être troublé quand viendra la grande tribulation, quand il y aura des tentations. La force. Si on n'a pas cet axe de la force, on sera balayé au premier vent. Et alors, Jean Cassien et Germain, ils ont 18 ans à peu près, et eux-mêmes disent, puisque alors nous avons ce magnifique témoignage qui s'appelle les collations, C-O-2-L-A-T-I-O-N-S. Alors les collations, quand nous entendons parler de collations, nous commençons à saliver. C'est comme les colloques ou les symposiums, hein, c'est les boissons mises en commun, etc. Mais c'est beau parce que le compagnon, hein, c'est une variante de l'amitié, le compagnon, celui qui partage le pain, hein, compagnon. Bon, et même je me disais les potes, quand on dit les potes, est-ce que ça a à voir avec le potable, la boisson, peut-être, enfin bon, ne nous égarons pas. En tout cas, les collations, c'est un recueil, ou des conférences, un recueil de propos de sages, des premiers pères du désert. On retrouve toujours cette source à la fois orientale et occidentale qui a inspiré toute l'histoire du christianisme. Et donc dans les collations, il y en a 24, eh bien ce sont les témoignages de ce périple extraordinaire ou cet itinéraire extraordinaire qu'ont fait ces deux amis, Jean et Germain, ils avaient 18 ans, par désir de vie monastique. Et à ce moment-là, ils se disent, pour entrer dans la vie monastique, que faire? Eh bien, il faut aller écouter les paroles de ceux qui sont moines, qui sont dans le désert. Ils sont allés, alors je ne vous rappelle pas non plus les conditions de transport, etc. Ils sont allés, ils ne partaient pas avec une valise de médicaments, une valise de je ne sais quoi. Bon, ils partaient comme ça, les vagabonds de Dieu, quelle merveille, hein. Et tout le Moyen-Âge aussi, après, sous le signe de ce nomadisme, hein, pour faire essaimer la parole. Et tous les deux, donc, décident d'aller en Palestine, enfin sur les lieux saints, hein, et puis aussi pour rencontrer, ils sont allés à Bethléem, et ensuite ils se disent, on va rencontrer des ermites, qui eux ont l'expérience, qui eux ont la sagesse. Donc ils vont aller non seulement en Palestine, en Syrie, jusqu'en Égypte, et là ils vont rencontrer des ermites ou des anachorètes. Certains vivent en petite communauté, d'autres vraiment isolés, et il recueille auprès de Abba, vous savez c'est le nom de père, auprès de Abba Moïse, Abba Daniel, Abba Isaac, Abba Joseph, il recueille leurs enseignements. Et c'est très touchant parce qu'il y a les questions en effet de Germain, et qui peuvent être tout à fait les nôtres aujourd'hui, non seulement sur le but de la vie, et puis pourquoi à certains moments je me sens tout léger, tout joyeux, tout a l'air simple dans la prière, dans la vie, et puis pourquoi d'un coup d'un seul je tombe dans la détresse ou le doute. Voilà, il y a les questions sur la joie, la prière, et c'est là que Jean Cassien parle de Seigneur, viens à moi, ou viens à moi Seigneur. L'ascèse, le discernement essentiel dans toute la vie, pas simplement spirituel, le discernement qu'on appelle aussi discrétion, hein, le discernement. Et donc ces deux amis, quelle merveille, vont recueillir ces paroles, les noter, Et ensuite, ils sont vraiment décidés à devenir moines. Et même d'ailleurs, un père, à un moment, leur dit « Oh, mais restez dans mon monastère hein, !» parce qu'il sent que ce sont deux jeunes gens de grande qualité et de grande ferveur. Et eux, ils continuent leur, on dirait de nos jours, un reportage, vous voyez, leur reportage, mais au sens qui implique vraiment chacun. Et ensuite, bon, à Constantinople, ils vont rencontrer quelqu'un qui n'est pas moindre non plus, Jean Chrysostome, le grand Jean Chrysostome, donc Bouche d'Or, hein, qui parlait si bien. Et c'est Jean Chrysostome qui va les convaincre de, parce qu'ils pensent qu'ils ont à agir aussi dans le siècle, hein, comme si les moines n'agissaient pas dans le siècle différemment, mais bon. Et Jean Chrysostome leur demande en effet de renoncer à la vie monastique, et c'est alors que Germain va devenir prêtre, et Cassien sera diacre, et ensuite, vous savez que Jean Cassien, en effet, il œuvre, voilà aussi la fécondité, il œuvre dans la région de Marseille, enfin, et entre autres, il fonde deux monastères vers l'an 415 à Marseille, donc pour Jean Cassien. Voilà un des plus anciens exemples et des plus beaux exemples d'une amitié spirituelle qui est pleine de vie, de vigueur, de ténacité, et qui non seulement, grâce à elle, nous avons les œuvres de Jean Cassien, ses collations, mais il y a aussi des monastères, et nous sommes encore nourris des propos recueillis par Jean Cassien. Ils sont au nombre de 24, dit-il, 24 collations, ces recueils d'enseignements. Ils sont au nombre de 24, dit-il, comme les 24 vieillards de l'Apocalypse qui chantent les louanges. Donc c'est une sorte de couronne aussi de sagesse. Et lui-même, dès le départ de ses collations, le dit, il parle de son amitié très forte pour Germain, et réciproque bien sûr et à égalité, en prenant la fameuse formule « nous sommes une âme en deux corps ». Ça c'est la formule, j'allais dire, non pas obligée, mais qui vient d'Aristote et de la philosophie antique. Et voilà pour ce premier, un des plus anciens témoignages de l'histoire du christianisme de fécondité spirituelle. Et très franchement, on peut voir toutes les fondations d'ordre qui sont liées à des amitiés. J'en ai choisi certains. Alors bien sûr, premier ordre, Saint-Benoît. Mais ce qui est intéressant de noter, parce qu'il ne s'agit pas d'être candide au sens d'être naïf, il est bien certain que si nous parlons d'amitié spirituelle, vous pensez aussi que les ennemis n'ont pas été moins nombreux. Je fais juste cette parenthèse, surtout si on travaille pour la plus grande gloire du Seigneur. Hein. Donc, un des premiers, le grand Saint-Benoît, vous savez que lui-même, il a failli être empoisonné, enfin, ses coreligionnaires voulaient l'empoisonner. C'est pour ça que maintenant, il passe aussi pour, on peut l'invoquer en cas d'empoisonnement. Mais Saint-Benoît, lui, avant de fonder son monastère sur le mont Cassin, et donc avec quelques amis, en effet, de cette même vigueur et volonté pour le service de Dieu, ses coreligionnaires aussi ont vu l'empoisonner. Et vous connaissez tous aussi la mésaventure, enfin douloureuse, de Saint-Jean de la Croix, qui lui-même, il a 35 ans et il est emprisonné, enfin dans vraiment une geôle infecte, dont il a réussi à s'échapper par miracle, mais ses propres coreligionnaires l'ont enfermé dans un cachot. Voilà. Donc ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un long fleuve tranquille hein, que de semer la parole de Dieu. Un des ordres parmi la fécondité spirituelle, ce qui nous est, ce qui est toujours existant encore, et ce qui nous touche beaucoup, ce qui nous instruit beaucoup, il y a tous ces ordres religieux, et par exemple, j'insiste un petit peu, par exemple sur l'aventure, la belle aventure de Saint Bruno, qui n'était pas saint à ce moment-là, de Bruno, et qui a donné donc l'ordre des Chartreux. Donc Saint Bruno, je rappelle rapidement, hein, il est né à Cologne, enfin Bruno est né à Cologne vers 1030, l'année 1030. Il fait des études à Reims. Reims, on retrouvera après Guillaume de Saint-Thierry. Vous savez, il y a des grandes écoles comme ça au Moyen-Âge, comme Chartres, Reims, à Paris, l'abbaye de Saint-Victor. On imagine ces foyers d'émulation, hein, là aussi, quelle fécondité intellectuelle et spirituelle. Il fait ses études à Reims, puis enseigne aussi à Reims. Il me dit, à l'époque, c'était bien, on n'avait pas besoin d'apprendre plein de langues, parce qu'on parlait tous latin. Donc, qu'on vienne de Cologne ou de Barcelone, on parle latin. Durant 20 ans, donc, il enseigne à Reims. Et puis, il y a des conflits religieux, comme à toute époque. Et le pape, en 1080, le pape Grégoire VII, demande d'élire un nouvel évêque pour calmer les conflits, je n'entre pas là-dedans, un nouvel évêque à Reims, et c'est Bruno qui est choisi. Et Bruno refuse, parce que lui ne souhaite pas s'établir dans le monde, mais il veut suivre le Christ au désert. Vous savez, comme au Moyen-Âge, la formule c'est « suivre nu le Christ nu ». Hein, c'est vraiment la décision de tout quitter pour la meilleure part. Et c'est donc en juin 1084, grande date, en juin 1084 que Bruno, il n'est pas seul, il va avoir avec lui 6 compagnons. Parce qu'encore une fois, vous le savez, l'amitié soutient, et parfois, si l'on doute, si l'on flanche, eh bien que l'autre continue à être là et à témoigner justement d'une présence divine, aide sur le chemin. C'est pour ça que ce n'est pas simplement affectif ou affectueux, c'est très important sur le chemin d'élévation. Et donc, avec 6 compagnons, ils vont parvenir dans cet endroit donc, qu'on appelle désert, et qui n'est pas un désert de sable, mais qui est loin de toute habitation et de toute agitation. C'est le désert de la Chartreuse. Et ils sont conduits par un jeune évêque qui a été l'élève de Bruno à Reims, et qui est l'évêque Hugues de Grenoble. Et c'est beau, vous le savez, puisque Hugues avait eu un songe. C'est très important aussi dans la vie, les songes, puisque ce sont toujours des signes envoyés par le ciel. Et dans ce songe, Hugues, qui est devenu saint Hugues, avait vu Dieu construire dans ce désert une demeure pour sa gloire. Voilà. Ce songe disait, tu vas avoir des hommes qui arrivent, et c'est pour construire en effet dans ce désert une demeure pour la gloire de Dieu. Et en effet, il voit arriver Bruno et ses compagnons, et ils vont s'établir à la Chartreuse, qui n'est bien sûr pas la Chartreuse que nous connaissons aujourd'hui, je veux dire d'aspect, d'apparence. Et il va y demeurer 6 ans, et puis ensuite il va partir dans le sud de l'Italie, fonder un autre monastère, et c'est là qu'il mourra en l'an 1101, et c'est donc en 1084 que l'ordre des Chartreux existe, et existe toujours avec cette importance, cette prééminence du silence, de la solitude. Vous savez que les Chartreux ne vivent pas en communauté, ils sont chacun dans une cellule, et bien sûr ils sont ensemble pour la liturgie. Mais sinon, chacun est seul dans sa cellule. Donc c'est extrêmement austère, et on verra aussi au fil des années, à chaque fois, il y a la règle de Saint-Benoît, puis après, à chaque fois, c'est de plus en plus, il faut revenir, vous savez, régulièrement, et encore aujourd'hui, il faut revenir à la pureté, à la simplicité de l'Évangile. Et donc il y a toujours des réformateurs qui veulent attention, vous vous affadissez, attention, le luxe gagne, attention, vous êtes dans le confort, attention, vous êtes dans la sécurité, revenons à la parole exigeante et ardente de l'Évangile. Mais la Chartreuse donc continue sur cette voie escarpée et magnifique du silence et de la contemplation. Et là nous avons au moins un témoignage, c'est toujours troublant et merveilleux d'avoir un témoignage, une lettre de Bruno, qui est adressée à un très cher et très vieil ami qui s'appelle Raoul Le Verd, V-E-R-D. Vous savez, les noms de famille, comme ceux que nous portons encore de nos jours, souvent sont des sobriquets ou des noms de métiers et autres, alors je ne sais pas ce qu'il faisait. Enfin, Raoul Le Verd, qui est prévôt de Reims. Et là, dans cette lettre, un peu d'un ton un peu vif, au début, il rappelle cette longue amitié, très chère amitié, et puis il lui rappelle que quand ils étaient tout jeunes, ils avaient décidé en effet de partir ensemble pour un désert et pour la gloire de Dieu. Et puis d'évidence, le prévôt de Reims s'est plutôt installé dans le siècle, et il a un peu oublié ses vœux de jeunesse. Et voilà ce que lui dit Bruno, donc c'est après certainement 1084 la fondation de l'ordre des Chartreux, et au nom de cette vieille et solide amitié dont il parle, voilà ce qu'il lui dit. Tu te souviens, toi que j'aime, nous étions un jour tous deux en compagnie de Foulquoy le Borgne, donc ça c'est aussi un de ses amis, en compagnie de Foulquoy le Borgne, dans le petit jardin attenant à la maison d'Adam. Donc là aussi, c'est un de leurs voisins ou compagnons. Attenant à la maison d'Adam où je logeais alors. Les plaisirs trompeurs, les richesses périssables de ce monde et les joies de la gloire sans fin, me semble-t-il, occupèrent un moment la conversation. Vous voyez, toutes les choses inutiles. Alors, enflammés du divin amour, nous avons promis, nous avons fait vœu et nous avons décidé de quitter sans délai le siècle fugitif pour nous mettre en quête des réalités éternelles et de recevoir l'habit monastique. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette formule, qui n'est pas une formule, qui est un vœu, qui est un engagement, qui dit tout. C'est la distinction entre ce monde et l'autre monde. Être dans le monde ou être du monde. Nous avons décidé de quitter sans délai le siècle fugitif, c'est-à-dire les choses périssables, accessoires, temporelles, contingentes. Nous avons décidé de quitter sans délai le siècle fugitif pour nous mettre en quête des réalités éternelles. C'est ça le sens profond de la vie, la quête des réalités éternelles, qui est la grande question. Et donc recevoir l'habit monastique. Si l'on continue, j'ai adopté exprès pour simplifier un peu un ordre chronologique, mais c'est vraiment par souci plus de, j'allais dire, de clarté. À la même époque, bon, ce 12e siècle est un siècle, vous le savez, en Occident, c'est un siècle de ferveur et d'élan extraordinaire. Hein, le siècle où on construit des cathédrales, où il y a les pèlerinages, que ce soit à Rome, à Jérusalem. C'est le siècle aussi, même si de nos jours, bien sûr, on conteste et on l'interprète différemment, mais c'est le siècle des croisades. Hein, et Saint-Bernard prêche une croisade, et ce n'est pas rien, parce que les croisades, ce n'est pas pour aller combattre les Sarrasins, bon, ou les morts. Les croisades, c'est pour défendre le tombeau du Christ. C'est ça. Non, mais je dis ça parce que de nos jours, vous le savez comme moi, il y a tout maintenant, oulala, les croisades, c'était pas bien parce qu'ils étaient méchants, et voilà, donc ça c'est la grande, comment dire, le grand aplatissement. Quand on n'a plus de foi et de ferveur, en effet, plus grand-chose n'a de sens, donc tout est aplati au simple plan des conflits humains et terrestres. Et donc ça peut durer encore longtemps, les conflits humains et terrestres. Si on n'a pas, on ne prend pas le recul et la hauteur que propose la philosophie ou que propose la dimension spirituelle. C'est ça, la sagesse c'est, la sagesse c'est pas une définition facile, mais prendre du recul, c'est l'histoire d'Édale et Icare dans le labyrinthe. Qu'est-ce que je fais si je suis dans le labyrinthe? Eh bien je tourne en rond et je me tape la tête contre les murs. Hein, la seule issue, même si après je me fracasse, mais la seule issue c'est par le haut. C'est la seule issue. Hein. Donc, l'issue proposée, la philosophie, c'est toujours prendre de recul, prendre de la hauteur. Laissons reposer les choses. Hein. Et pourquoi vous disais-je ça? Oui, par rapport aux croisades. Soit on prend les croisades sur un simple plan humain, historique, de bagarre entre des populations ou des races, si encore on peut prononcer ce terme, alors que c'est un terme français qui n'a rien de racial ou raciste. Donc ce n'est pas ça les croisades, c'est ça, c'est cet élan spirituel fou qui peut en effet avoir dégénéré parce qu'il y a des humains. Et tous les humains sont faillibles et pleins de faiblesses. Mais c'est ce siècle extraordinaire. Et puis le XIIe siècle est le siècle de l'amour par excellence. C'est le siècle de l'amour. Et là, à ce propos, puisque nous parlons d'amitié qui est, j'allais dire, la préceptrice de l'amour, d'une certaine façon, j'insiste pour dire qu'en français, qu'on dit ancien, l'ancien français du XIIe siècle, le terme « ami », au masculin ou au féminin, ami est très puissant. C'est très puissant. ça n'a rien à voir, c'est ni un camarade, encore moins un copain, etc. Ami, c'est le nom qu'on donne à l'être aimé. Que l'être aimé soit d'amour ou d'amitié, soit d'amour ou d'amitié, souvenez-vous, pour prendre un des grands mythes du XIIe siècle, Tristan et Iseut, que disent, et puis après aussi tous les troubadours, Tristan et Iseut, ils disent « beaux doux amis », dit Iseut à Tristan. L'être aimé, c'est le beau doux ami. D'où l'importance aussi, lorsque on dit « Dieu est ami », c'est vraiment aussi c'est l'exact équivalent aussi de cet amour ineffable et incommensurable. J'insiste sur le terme, l'amitié est très puissante, d'où le lien d'amitié qui est extrêmement puissant. Ce n'est pas, comme trop souvent le considère, bien sûr pas ici dans ce que nous vivons, nous partageons, mais l'amitié est tellement souvent considérée comme le parent pauvre de l'amour au sens relation amoureuse. Ah ben je n'ai pas de relation amoureuse, donc c'est bien d'avoir un ami ou une amie. C'est un peu ça, c'est toujours le lot de consolation. Ah oui, ben quand on n'a plus, ou quand on est divorcé, si on est séparé, etc. Ah ben au moins j'ai des amis. Non, 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 l'amitié est beaucoup plus. C'est pour ça que je dis, elle peut être préceptrice de la relation justement dite amoureuse ou sentimentale. Voilà, donc ce XIIe siècle, en effet, a vu naître aussi, non seulement toutes sortes d'écoles, que ce soit celle de Chartres, de Saint-Victor, etc., des écoles où il y avait non seulement cette émulation, mais cette ferveur mystique, les grands, grands mystiques du XIIe siècle, qui sont de grands théologiens. Et c'est pour ça, à cette époque aussi, que fleurissent non seulement le blanc manteau d'église dont parlent les textes historiques, mais également les églises, les cathédrales romanes, et puis également que fleurissent et que s'inventent, s'établissent les ordres, les grands ordres religieux du christianisme que nous connaissons encore aujourd'hui, ainsi pour ce qu'on appelle les cisterciens. Alors c'est amusant, si je puis dire, l'histoire de Robert, que maintenant on appelle Robert de Molesme, même s'il n'est pas resté à Molesme, qui se trouve en Côte d'Or, M-O-L-E-S-M-E. Robert qui, lui, vit au XIIe siècle, au début du XIe siècle, 1025-1110, pour préciser, c'est un moine bénédictin. Puisque si on est moine, c'est la règle de Saint Benoît, le moine bénédictin, il est moine bénédictin à Tours, et puis, peu à peu, il a des amis, des frères, bien sûr, et puis il est très exigeant, et il voit que très vite, c'est la tiédeur qui s'installe et le relâchement. Et lui, il ne supporte pas, donc il quitte ses moines de Tours pour s'installer à Molesme. Et là, à Molesme, en Côte d'Or, là non plus, ce ne sont pas des bâtiments somptueux, ce sont des sortes de petites huttes. Il faut imaginer, maintenant, ce que nous voyons, les abbayes, même du XVIe, XVIIe, ou même plus anciennes, au début, ce sont vraiment des cabanes. La question, c'est vivre la pauvreté, qui est une valeur évangélique, la simplicité. Et il s'installe donc à Molesme, d'où son nom, qui est resté Robert de Molesme. Mais à nouveau, certainement, on commence, il y a la hutte, et puis après, bon, on ne va pas dire qu'on met le chauffage central, mais après on commence à mettre des couvertures, on ne se contente plus de dormir sur le sol, et puis après on a besoin d'une soupe chaude, et puis voilà, c'est notre tendance terrible et merveilleuse, ça fait la civilisation aussi, et la fait l'électricité, mais c'est notre tendance toujours au confort et à la sédentarisation. Ce qui est magnifique, si quelqu'un se dit chrétien, il est étranger, voyageur sur terre. Donc il ne peut pas être sédentaire. Bien sûr, concrètement, on est plus ou moins obligé d'avoir un lieu où loger. Il y a de plus en plus de personnes sans abri. Mais fondamentalement, profondément, nous ne sommes pas à demeure. Nous sommes de passage, et certains sont même en exil. Donc, Robert de Molesme, à nouveau, voit que la ferveur devient tiédeur, et il va à nouveau quitter le lieu pour, en 1098, ça on connaît les dates, il part, lui, il choisit, donc, parce que l'amitié aussi se choisit, c'est un don de Dieu, sans nul doute, mais après il choisit ceux qui sont de même nature spirituelle, de même ardeur, et avec 20 moines fervents, donc, il va partir, pas très loin, une centaine de kilomètres, pour s'établir à Cîteaux, donc il reste en Bourgogne, et parmi ces 20 moines fervents, il y en a deux qui sont restés au moins très célèbres, il y a Albéric et surtout le moine anglais Étienne Harding, Saint Étienne Harding. Ils vont donc s'établir à Citeaux, et l'abbaye de Citeaux, donc, et Robert, donc, deviendra le premier abbé de Citeaux en 1098. Donc là, vous voyez aussi qu'il s'agit d'une amitié spirituelle là, qui est au-delà de deux amis, mais pour continuer à progresser sur le chemin du Seigneur. Et ensuite, bien, Albéric va mourir, Robert aussi, et c'est Étienne Harding qui est abbé. Lorsqu'en 1112, eh bien, c'est important qu'il y ait toujours des renouvellements, comme on dit, du renouvellement des jeunes, pas une question d'âge, mais une question d'énergie et de fraîcheur d'esprit. Parce que sinon, on a tendance à, toujours pareil, à s'ankyloser, à devenir routinier. Donc, la venue d'une personne autre, par sa propre personnalité, va changer, bouleverser, renouveler les choses. Et c'est alors que Citeaux commençait aussi à ne plus aller très bien, et puis les grands fondateurs étaient partis, étaient morts, et bien voici qu'arrive, avec 30 compagnons, devinez qui, en 112, notre ami Bernard. Bernard, bon, qui n'est pas encore Bernard de Clairvaux, et là, Citeaux va reprendre vie, et c'est la grande réforme cistercienne de Bernard, Saint Bernard, qui va s'étendre à toute l'Europe, et donc c'est en 1115, plus tard, que Saint Bernard, qui n'est pas encore saint, mais qui a toutes les possibilités et toutes les aptitudes à la sainteté, Bernard fonde Clairvaux. Voilà l'histoire des, entre autres, au pas de charge, j'allais dire, mais quand même des cisterciens. Autre ordre aussi, là du côté féminin, vous le savez, c'est l'époque du cher François d'Assise, hein, qui le crucifie devant lequel il est en adoration, lui parle et lui dit « Va François ». Et répare mon église qui tombe. Alors, au premier degré, il se dit, bon, bah, très bien, il va réparer Saint-Damien, hein, et puis il sent bien, parce que ça peut être le pauvre de Dieu, mais il n'est pas pauvre, il n'est pas bête ni idiot, loin de là. C'est aussi un chevalier, d'abord, un être aussi de culture et un troubadour, hein, Saint-François. Et il répare Saint-Damien, et il sait bien que c'est une réparation aussi sur un autre plan. Il y a toujours le plan visible et le plan invisible, qu'il doit réparer, en effet, peut-être une église qui... toutes les tentations que nous avons individuellement, les tentations arrivent aux institutions. Elle n'échappe pas, puisque les institutions sont aussi humaines. Donc, la volonté de confort, de richesse, et puis l'hypocrisie qui peut y régner, le pouvoir, dû à la hiérarchie, dans tout groupe, c'est la tentation, ou le laisser aller, enfin, ça c'est répertorié, c'est connu, et personne n'y échappe à travers siècles. Et comme Sainte-Claire a quitté ses parents, enfin sans leur dire d'ailleurs, elle a voulu être elle aussi, se consacrer à la vie spirituelle, à Dieu, Claire d'Assise donc est devenue abbesse à Saint-Damien en 1215. Et vous connaissez leur histoire d'amitié, donc je n'insiste pas là-dessus, puisque là le propos c'est beaucoup plus la fécondité spirituelle. Et... c'est Claire d'Assise, pour Claire d'Assise, sa sainte amie spirituelle, que Saint François donc va fonder, si on peut dire, établir Saint Damien et cet ordre, qui est un ordre qui est devenu les Clarisses, mais qu'il appelait les pauvres dames. Il y a un grand poème que vous devez connaître de Saint François, qui est une louange à dame pauvreté. Hein. Il dit dame parce qu'au XIIe siècle, je le rappelle aussi, la dame est vraiment la dame des pensées, hein, celle à qui on offre sa vie. Et d'où le culte à Notre-Dame. À ce moment-là, on parlait, bien sûr, on pouvait parler de la Vierge Marie, mais c'est la dame, Notre-Dame. Hein, c'est la transposition sur le plan spirituel, de la dame des troubadours. C'est très important, parce qu'un Bernard comme un François d'Assise ont été troubadours, et ils sont dans ce climat-là. Et donc les pauvres dames, et dame pauvreté, hein, quelle dame étonnante à qui vouer un culte, hein, dame pauvreté, les pauvres dames, qui deviendront ensuite les Clarisses par rapport à Sainte-Claire, eh bien, vous le savez, mais c'est important de le rappeler, en 1216, en effet, Sainte-Claire, elle va demander au pape le privilège de la pauvreté. Je dis ça comme un clin d'œil terrible par rapport à notre époque, parce que de nos jours, peut-on comprendre encore, non pas le concept de pauvreté, ou la réalité sociale que peut être la pauvreté, mais peut-on entendre la vertu que représente la pauvreté, à savoir, je me passe de tout sauf de Dieu. En gros, c'est ça, je veux dire. C'est ça, la meilleure part, hein. L'unique essentiel, l'unique nécessaire, hein. Tout le reste, bon, c'est toujours, c'est quel est mon seul désir, quelle est la seule réalité. Nous, tant que nous sommes dans le multiple et la multiplicité, ce à quoi nous engage notre société, Nous sommes totalement, comment dire, influençables, manipulables, tirés à U et à Dia, alors que ce qui est important, avoir cet axe, d'où le discernement, d'où le silence, ou la méditation, la persévérance, le courage, toutes ces vertus-là, c'est quel est mon unique désir, ce à quoi je ne renoncerai jamais, celui à qui je ne renoncerai jamais. Celui pour qui je donnerai ma vie, hein, pour reprendre le terme de l'ami spirituel. Et donc la pauvreté, voilà, s'interroger sur heureux les pauvres en esprit, c'est ça, ce sont tous sauf des naïfs et des idiots, hein. Pauvre en esprit, c'est avoir renoncé à tout, tout ce qui est inessentiel justement, et non pas à cela qui donne saveur à tout. Et la règle donc de Sainte-Claire d'Assise, enfin donc qui sera celle des Clarisses, c'est quand même, c'est magnifique, parce que c'est la première règle monastique composée par une femme. Hein? Quand je dis souvent, vous savez, les dames du XIIe siècle étaient beaucoup plus libres que les bourgeoises du XIXe, et peut-être que beaucoup de femmes libérées de notre époque, c'est intéressant de... Voilà, et en 1252, il y a cette première règle monastique composée par les femmes. Et donc c'est bien aussi le fruit de l'amitié spirituelle entre François d'Assise et celle qu'il appelait sa petite plante, la petite plante du bon Dieu. Si on traverse un peu les siècles aussi, je ne veux pas vous trop que ce soit ça pénible, mais ceux qu'on appellera ensuite les jésuites, je les ai évoqués un petit peu hier, au début, il s'agit en effet vraiment, c'est une histoire d'amitié extraordinaire, hein, qui a lieu, qui se concrétise à Paris. À Paris, au collège, si ceux qui connaissent ou si vous y allez, allez sur la montagne Sainte-Geneviève, parce que non seulement c'est un très bel endroit, même si la montagne est une colline, mais on voit bien que ça monte quand même. La montagne Sainte-Geneviève avec la magnifique église Saint-Étienne-du-Mont, où repose la chasse de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Et à côté, il y a le collège Sainte-Barbe. Et quand on pense à cette montagne Sainte-Geneviève, le fameux quartier latin, où ont vécu mais tous les grands esprits du Moyen-Âge. Hein, je cite comme ça Erasme, enfin dans le désordre, hein, Erasme, Raymond Lulle, Maître Albert, le grand Maître Eckhart, bien sûr Abélard, etc. C'est extraordinaire. Et donc, au collège Sainte-Barbe, sur la montagne Sainte-Geneviève, c'est un collège tout simple pour étudiants, hein, qui ne devait pas être très très luxueux, mais il y a un certain Ignace Nigo, qui vient de Barcelone, basque espagnol, et qui vient à Paris pour faire continuer ses études, mais il a eu une expérience mystique importante, apparition de la Vierge, et c'est en 1529, il partage sa chambre, et comme on peut, bon, on partage les chambres d'étudiants, avec deux compagnons, deux hommes qu'il ne connaît pas et qui sont très différents d'ailleurs d'esprit, parce que, insistons là-dessus, l'amitié spirituelle, c'est pas tu me ressembles, tu as les mêmes goûts que moi, tu as les mêmes, etc. Ça veut dire, bon, vous mettez un miroir et c'est du narcissisme. L'amitié spirituelle, c'est aussi justement, repose sur la singularité. la merveille d'être unique et irremplaçable. Hein, c'est pourquoi la fameuse phrase de « parce que c'était lui, parce que c'était moi », c'est pas uniquement « c'est interchangeable », non. Je l'aimais d'amitié parce qu'il était unique. Et c'est ça le sentiment d'élection, en amour comme en amitié, c'est pas lui ou n'importe qui, c'est pas elle ou n'importe qui. Vous savez, c'est pour ça quand on dit, alors dans les médias qui sont tellement délicieux, hein, « on vous aime », qu'est-ce que ça veut dire « on » ou « je vous aime tous », vous savez, « t'aimes personne ». Bon, donc c'est l'amour, et ça c'est... création du XIIe siècle, enfin, émergence, éclosion du XIIe siècle, c'est justement, c'est toi et personne d'autre. L'amour est électif, peut-être exclusif, mais électif, hein, préférence pour ça, l'amitié spirituelle, c'est la même chose. Et parce que c'est lui, parce que c'est moi, en effet, il n'y a qu'un Étienne de Labo ici au monde, il n'y en aura plus, et il y a un seul Montaigne, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont connus. Nous, ici, si nous ne sommes pas persuadés que nous sommes uniques et irremplaçables, donc, sacré de sacré, devoir et égard aussi, hein, non seulement nous ne sommes pas des clones et nous ne sommes pas interchangeables, hein, c'est pourquoi, je fais plein de parenthèses, mais bon, je trouve criminelle l'expression, quand on dit, on l'entend parfois, et là, moi, j'interviens aussitôt, je trouve criminelle quand on dit « nul n'est irremplaçable ». Ça, c'est une parole que vous ne devez pas laisser passer. Je veux dire, même en tant que chrétien, on ne doit pas laisser passer. Nul n'est irremplaçable. Ah si, si on est un objet, nul n'est irremplaçable, si je tape sur, etc. D'où, en effet, si je suis uniquement réduit à être un instrument économique, un instrument de travail qu'on prend, qu'on jette, etc. Si je suis considéré simplement comme un instrument économique, et ce que va devenir de plus en plus l'être humain, vous le savez, puisque maintenant, robots, êtres humains, on greffe tout ça, et puis voilà l'important. Et puis, à partir de 60 ans, on est considéré comme plus tellement intéressant, donc on vous soigne moins, et puis maintenant, l'euthanasie, on va vous débarrasser dès que... Hein, l'anesthésie et l'euthanasie pour tous, c'est quand même effrayant ce qu'on vit, hein, vous en êtes conscient, je pense. Bon. Ça commence comme ça, nul n'est irremplaçable. Et ça, c'est absolument, mais anti-chrétien et anti-humain. Hein. La merveille, et ça, ça commence aussi avec la démocratie athène, mais c'est la personne. Hein. Tout le christianisme repose sur la personne, et que nous sommes aimés personnellement. Dieu, nul n'est irremplaçable, c'est effrayant. Enfin, c'est une vision suicidaire et mortifère de la société. Pour ça, il faut témoigner, vous voyez, ça fait partie aussi des choses... Voilà. Et donc Ignace rencontre un François-Xavier qui n'a rien à voir avec lui comme lui il aime la vie, il aime les plaisirs, il aime le sport, il aime danser, et il a cet Ignace qui a l'air un peu quand même, un peu sévère, un peu âpre, pas très drôle, bon il n'aime pas danser, il n'aime pas les fêtes, il n'aime pas les filles, bon. Et puis un autre plus Pierre Favre qui est plus doux, plus docile, et pendant 4 à 5 ans de compagnonnage dans cette chambre, mine de rien, Ignace, après, va leur enseigner ses exercices spirituels, et lui, il est pugnace, têtu, déterminé, eh bien, il va réussir à les convaincre, et c'est ainsi, et puis ils vont s'accroître, puisque, en 1534, ils vont à Montmartre, qui est, je vous le rappelle, le mont des martyrs, au sens de témoins, hein, ce n'est pas rien, ils vont à Montmartre, ils font un vœu, ils sont 7 compagnons, qui vont faire un vœu à Montmartre pour s'engager, c'est l'époque en effet déjà de la réforme, hein, pour s'engager pour une mission apostolique, pour répandre l'évangile à travers le monde, c'est le début des missions. Et ensuite, après, je vous passe toute l'histoire, et puis par ailleurs, je la raconte dans mon livre, et ce n'est pas la même, ce n'est pas le lieu. Mais ensuite, bien sûr, ils vont demander au pape son assentiment, son approbation, etc. Et c'est là que naît ce qu'on appelle la Compagnie de Jésus, et qui ensuite on les appellera les jésuites, mais c'est vraiment une histoire d'amitié extraordinaire qui n'est pas, il y a des amitiés immédiates, on l'a vu un peu hier, c'est lui, c'est moi, là, c'est une amitié qui demande du temps, qui est patiente, mais qui porte des fruits extraordinaires, parce qu'en effet, le jour où François-Xavier, le matin, Ignace dit à François-Xavier, bon, c'est quelqu'un qui devait partir, mais il est malade, c'est toi qui vas y aller. Et François-Xavier dit, bon, d'accord. Et là, il ne va pas faire ses valises pendant 15 jours et se demander et regarder les cartes routières. Hein. Et il part, il ne connaît pas la langue et il ne sait pas s'il reviendra un jour. D'ailleurs, il ne revient pas. Donc là aussi, témoignage d'amitié qui communique la ferveur aussi, hein, la ferveur, et qui soutient aussi à distance. Voilà, et donc c'est le début des missions, et François-Xavier donc aux Indes et au Japon. Alors je passe aussi sur l'histoire du Carmel réformé, vous le savez, Thérèse d'Avila donc, qui fait appel à un jeune carme, Jean, qui lui se vouait à être chartreux justement. Elle lui dit, vous savez, c'est quand même une femme d'action, elle fonde plein de monastères, et elle dit, pas de chartreuse, etc. Non, non, tu vas agir avec moi, et vous savez aussi que c'est grâce à Jean de la Croix qu'on a aussi non seulement des œuvres de Thérèse, mais qu'elle a été réhabilitée, parce que Thérèse d'Avila, elle a failli presque être excommuniée, ses constitutions paraissaient bizarres pour l'Église de Rome, etc. On n'imagine pas maintenant avec, on sanctifie, on prie cette femme extraordinaire, mais même on voulait l'exorciser de son temps, hein, t'es pas très nette, hein. C'est incroyable ces histoires. Et donc Jean, jusqu'au bout, après sa mort, après la mort de la madre, il a vraiment plus que plaidé sa cause. Ça aussi, c'est beau, parce que nous avons toutes ces œuvres et ces témoignages. Alors, ils avaient une grande différence d'âge, hein, puisque lui, quand ils se rencontrent, il a 25 ans et elle en a 52. Hein. Mais égalité parfaite aussi, puisqu'elle lui fait totale confiance pour enseigner et pour continuer son œuvre. La belle histoire aussi pour ceux qui... Bon, la Bourgogne est riche, parce qu'on a vu déjà les cisterciens, mais l'histoire de François de Sales et Jeanne de Chantal, Jeanne baronne de Chantal, c'est une très belle histoire. Et là, c'est merveilleux parce que nous avons les textes, nous avons les lettres. Hein, lisez les lettres de Saint François de Sales à Jeanne de Chantal, et puis ses lettres à elle aussi. Et ils se rencontrent à Dijon, lors d'un carême, 1604. Là, nous sommes en 1604. Et dès qu'elle voit l'évêque, il est évêque de Genève et d'Annecy, dès qu'elle voit François de Sales, elle le reconnaît, parce qu'elle avait eu un songe où elle avait vu ce visage masculin. Elle le reconnaît, et elle était bien sûr désireuse et soucieuse d'avancer sur la vie spirituelle, de progresser, et elle avait un directeur spirituel, mais elle n'était pas très à l'aise avec lui, et après... Quand elle voit François de Sales, elle sait que c'est lui. Et elle va vraiment demander, lui ne veut pas tout de suite. Et après, c'est elle qui insiste, et il accepte que ce soit d'être le guide spirituel. Mais le guide spirituel va très vite se transformer en amitié spirituelle. Hein, puisqu'en effet, la question, c'est l'égalité. C'est-à-dire que Jeanne de Chantal, comme on l'appelle maintenant, puisque Jeanne baronne de Chantal, elle va perdre aussi son mari, ses enfants, etc. Mais... Jeanne de Chantal inspire autant François de Sales que François aussi lui donne des conseils pour son âme. Hein. Encore une fois, c'est réciproque, c'est ça qui est magnifique, enrichissement mutuel. Il n'y a pas d'amitié spirituelle s'il n'y a pas d'enrichissement mutuel. Sinon, c'est un enseignement, pas à sens unique, mais d'une certaine façon. Et c'est alors que leur amitié spirituelle va porter des fruits, à savoir, eh bien, en juin 1610, à Annecy, il y a cette fondation de l'ordre de la Visitation, la Visitation faisant écho à la fameuse, au fameux passage de l'Évangile où Élisabeth rend visite à Marie. Et la Visitation peut nous toucher combien de nos jours, combien, parce qu'avec cette prolifération, hélas, de personnes démunies, à l'abandon, des personnes âgées aussi que l'on méprise, enfin c'est terrible, on parle souvent des sans-abri, mais on ne parle pas assez des personnes âgées qui sont isolées. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas une cause intéressante, hein, économiquement, sur le plan spectaculaire, voilà. Et on verra aussi les petites sœurs des pauvres, comme on dit. Mais en tout cas, les visites en dîne, c'est intéressant, parce que c'est un ordre non cloîtré. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne se voue pas à la prière, ni à la contemplation, ou à la méditation, ou à l'adoration, mais leur rôle, leur mission, qui est magnifique, c'est de visiter, justement, les pauvres et les malades. Et d'aller porter en même temps la parole du Seigneur aux pauvres et aux malades. Cet ordre de la Visitation, donc les visitandines. Alors je me souviens d'un passage assez amusant, parce qu'ils disent quand même, il faut François de Sales, vous savez qu'il a un langage, une langue extraordinaire, pour ça il faut lire François de Sales, quelle langue savoureuse. Mais il dit oui, il faut quand même un costume pour qu'on les reconnaisse, etc. Donc elle lui propose un costume, et puis alors certainement peut-être avec, pas un bonnet, mais enfin doit couvrir les cheveux, etc. Et François de Sales, il rigole un peu, il dit vraiment, non c'est vraiment pas très joli, etc. Donc il a de dire, bon, pourquoi on les affuble comme ça, mais... C'est amusant parce qu'il y a une sorte de tradition quand même. Bon, il faut qu'on les reconnaisse, qu'il y a un uniforme aussi pour dire qu'on soit, on n'est pas dans le siècle, on est distingué du siècle. Et en même temps, bon, elles ne sont pas cloîtrées et elles sont dans le monde, mais elles sont donc les visitandines. Et puis l'autre ordre très important, vous le savez, du XVIIe siècle, qui est dû à Saint Vincent de Paul, et aussi à une amitié spirituelle, puisque Vincent de Paul, nous sommes au début aussi du XVIIe siècle, Vincent de Paul qui a tellement fait pour les galériens, pour les enfants pauvres, pour évangéliser les campagnes, enfin c'est énorme. Et puis, je le dis maintenant, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire ensuite, mais quand on pense à ces personnes avec ce travail fou sur le plan temporel et spirituel, alors que ce soit Thérèse d'Avila, que ce soit Ignace de Loyola, que ce soit Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul, ils ont une correspondance. Alors on dit par exemple, Saint Vincent de Paul, il avait peut-être un ou deux secrétaires, Ignace aussi. Mais attendez, c'est des milliers de lettres qu'ils écrivent. Milliers de lettres. Là aussi, ça fait partie d'entretenir l'amitié. Hein. Donc, ils avaient une énergie, un courage extraordinaire. Hein. Ils ne se disaient pas, ils n'étaient pas en train de compter leurs heures de semaine. Hein. Là aussi, quel enseignement. On se dit, mais qu'est-ce qu'on s'est ramolli. Mais qu'est-ce qu'on s'est ramolli. Non. Et donc, Saint Vincent de Paul, il se rencontre avec Louise de Marillac, qui a plein de scrupules, qui cherche aussi une direction spirituelle, et Saint Vincent de Paul comprend qu'il doit la mettre à la tête d'une institution pour qu'elle soit structurée qu'elle dirige les choses. Et donc, en 1620, Vincent de Paul institue les Dames de la Charité, et en 1633, en effet, il va demander à Louise de Marillac de s'occuper, de diriger la compagnie des filles de la charité et qui deviendront ensuite les sœurs de Saint Vincent de Paul. Voyez cette richesse extraordinaire, tout cela qui est lié, qui est les fruits magnifiques et toujours savoureux d'amitié spirituelle, et souvent entre hommes et femmes, vous l'avez vu, religieux ou non, hein, religieux et laïque ou de religieux. Alors plus près de nous, je vais citer bien sûr le bienheureux Charles de Jésus, Charles de Foucault. Il est déjà à Tamanrasset, et vous savez qu'il est passé par la trappe, encore une fois, école de silence et de solitude. Et par rapport à son ami, son amitié pour Louis Massignon, avec Louis Massignon, donc Louis Massignon se dit converti, il a été visité par le grand étranger, E majuscule, à savoir... Le Christ l'a visité, et Louis Massignon écrit qu'il est converti en 1908, puisque Louis Massignon, c'est quelqu'un qui a écrit magnifiquement et qui a traduit aussi les œuvres des grands mystiques de l'islam, dont Halaj, la passion de Halaj, qui a été, c'est très troublant, parce que Halaj, ce mystique persan, a été, il a subi le martyr vers les années 900, et un peu comme une passion du Christ. Il a été crucifié, ensuite brûlé, ses cendres, etc., jeté dans le fleuve. Louis Massignon s'est complètement presque identifié à cet itinéraire. Et lui, sa référence était vraiment l'islam mystique. Et là, en 1908... puisque Louis Massignon a été élevé en Occident, en France, et comme chrétien, converti au christianisme, reconverti, si on peut dire, en 1908. Et aussitôt, Charles de Foucault, trop heureux, l'invite à le rejoindre au désert. Hein. Et ce que ne fera pas Louis Massignon, qui a chacun aussi un itinéraire différent, hein, le mystère des âmes aussi est différent, Vous savez que Charles de Foucault est donc assassiné le 1er décembre 1916. La dernière lettre qu'il écrit, qu'il ne pourra pas envoyer, mais que nous avons, est écrite à Louis Massignon. Et le grand projet que souhaitait Charles de Foucault et auquel il voulait agréger donc Louis Massignon, et Louis Massignon ne se sent pas prêt, c'est ce projet magnifique, donc ce n'est pas un ordre au sens monastique comme on l'a vu au religieux, c'est ce grand projet de fraternité universelle. Hein. Alors pas au sens liberté, égalité, fraternité, quoique la fraternité est un si beau terme, mais fraternité entre, c'est plus, j'allais dire, qu'un dialogue interreligieux avant la lettre. Hein. Que l'on soit religieux, que l'on soit laïque, que l'on soit de telle religion ou autre d'Orient et d'Occident, ne peut-on pas, au nom du Père, en effet, du seul Père et de l'unique Père, ou de l'unique vérité, peut-on pas fraterniser? Hein, donc pour l'avènement de la paix. Hein, voilà. Et donc ce projet après donc sera peut-être, aura peut-être d'autres héritiers, mais en tout cas c'était un vœu et un fruit possible d'une amitié spirituelle souhaitée par Charles de Foucault. Et puis proche de nous également, ce sont les foyers de charité hein, de Marthe Robin et du père Finet, qui était son ami spirituel, hein, le père Finet, F-I-N-E-T. Marthe Robin, très franchement, moi je ne suis pas encore allée sur les lieux. Châteauneuf, voilà, j'avais De Galore, Châteauneuf de Galore. Enfin, ces centres de retraite spirituelle et ces foyers de charité qui sont tellement importants. Marthe Robin, donc, qui a quitté ce monde en 1981, elle ne l'a pas tout de suite dit, mais en 1940, elle a reçu un long message de Jésus, et comme tout véritable mystique, même si Marthe n'est pas reconnue officiellement par l'Église de Rome en tant que bienheureuse ni sainte, en tant que mystique, donc elle reçoit, vous savez aussi, c'est la passion qu'elle vit. Et mais ça fait partie aussi des choses, ou les stigmates, ça fait partie aussi des signes extérieurs. C'est pas un critère de sainteté, mais ça peut être troublant. Mais en tant que mystique, ce que je voulais dire, c'est en tant que... On reconnaît une âme mystique à sa discrétion. C'est pour ça, méfions-nous, ceux qui disent « Ah ben oui, ça y est, j'ai rencontré Dieu, Jésus me parle tous les soirs, etc. » Peut-être. Peut-être. Oui, alors là, ça fait des succès en librairie, hein, vous voyez à qui je pense. Bon. Ça fait des succès peut-être, mais dans le secret du cœur, alors là, ça veut dire que c'est sûr que c'est terminé. Hein. Et puis, il y a aussi, c'est intéressant, cette idée qu'on croit que si Jésus ou un saint apparaît à quelqu'un, ça veut dire c'est qu'il est très élevé spirituellement. Or, certains auteurs spirituels, et je trouve ça très judicieux, entre autres ma chère Béguin Edwige d'Anvers, qui dit, justement, si vous avez l'apparition ou la vision, en songe ou pas, d'un saint, voire de Jésus, voire de la Vierge Marie, ça veut dire que vous êtes tellement pécheur que là, il faut y aller, j'allais dire, au marteau-piqueur, vous voyez. Et je trouve ça très intéressant, vous voyez, ça vous remet un peu les choses. Ah, je suis bien, j'ai vu, etc. Non, c'est parce que tu es vraiment opaque qu'il faut vraiment là y aller très fort. Là, on va déléguer carrément la Vierge Marie pour te réveiller. Donc, bon. Et donc, Marthe Robin, discrète et secrète, donc, n'a révélé que plus tard ce que Jésus lui avait dit, lui avait confié. Je cite juste deux lignes. En 1940, Jésus s'adresse à Marthe et lui parle en effet de ce foyer de charité qui va essaimer, qui va s'épanouir. Il dit que ce sera un centre unique des grandes résurrections spirituelles après la défaite matérielle des peuples et de leurs erreurs sataniques. L'oasis vivifiante aux âmes de bonne volonté, aux âmes anxieuses et découragées, aux pécheurs endurcis et sceptiques. Ce sera la maison de mon cœur ouverte à tous. Voyez. Alors, pour presque terminé, il y a encore tellement de choses à dire. Là, j'ai parlé des ordres religieux, mais il y a aussi les traités, les correspondances que j'ai un peu évoquées, et puis une amitié que je ne peux pas ne pas évoquer, tellement elle est belle aussi, c'est celle, nous revenons au XIIe siècle, entre Saint Bernard et Guillaume de Saint-Thierry, qui lui aussi a vécu à Reims, un bénédictin qui était à Reims. Et là, cette amitié entre Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry est immédiate. Ils se voient et ils savent qu'ils seront amis pour l'éternité. Parce que leur amitié est fondée sur l'amour de Dieu et le silence. Absolument indissociable les deux. Amour de Dieu et le silence. Et ils vont être ensemble presque jusqu'au bout. Ils vont réfléchir ensemble, ils vont voyager ensemble, mais à vrai dire, c'est plus Bernard de Clairvaux qui va être réclamé par les grands événements du monde. Mais, par exemple, un très joli épisode de leur amitié parce que, par exemple, si Guillaume de Saint-Thierry est très attiré ou séduit par Cîteaux, il veut devenir cistercien. Et la merveille qui est l'amitié, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi, Bernard de Clairvaux ne lui dit pas, mais oui, viens avec moi, fais comme moi, etc. Ça, ce serait très possessif d'une certaine façon. Hein. Il lui dit non. Tu restes bénédictin, tu n'es pas fait pour... voilà. La distinction, hein, l'ami ce n'est pas le même que, c'est le plus proche, mais en même temps il est différent, il est remplaçable. Alors la très jolie histoire se passe en 1127 à l'infirmerie de Clairvaux. Ils se retrouvent tous les deux malades, parce que bon, déjà Bernard n'était pas quelqu'un en grande santé, et puis il se dépensait énormément, et tous les deux se retrouvent malades à l'infirmerie en 1127. Et que vont-ils faire, si on peut dire? Ils ne vont pas se dire qu'est-ce que tu prends comme remède, est-ce que tu vas mieux, est-ce qu'on va s'en sortir, hein? Ils se mettent à dialoguer, à converser sur les vices et les vertus, et surtout à commenter, à réfléchir sur le cantique des cantiques. C'est ça le vrai remède, vous êtes bien d'accord, c'est le vrai remède. Bon. Et ils se mettent à parler sur le cantique, vous imaginez, moi j'imagine la scène, les deux amis alités qui ont encore assez de vigueur pour réfléchir et qui parlent, conversent, dialoguent, commentent le cantique des cantiques. Et cette merveille de l'amitié spirituelle fait que, eh bien ensuite, à partir de 1135, Saint Bernard, vous le savez, va écrire et va dire, prononcer des sermons sur le Cantique des Cantiques. Il y en a, nous avons les traces, quelle merveille, les traductions, 86, mais il était parti, il s'est arrêté, je ne me souviens plus à quel verset, mais là il en est qu'au tout début. Hein, il avait déjà écrit 86 sermons sur le Cantique des Cantiques, et de son côté, en 1138, eh bien Guillaume de Saint-Thierry écrit, nous avons le texte aussi, un commentaire sur le cantique, qu'on appelle aussi exposé sur le cantique. Donc chacun parle différemment, mais au début c'est né de cette conversation magnifique entre les deux amis. Et ce qui est extrêmement touchant aussi, parce que l'amitié est aussi un lien d'affection profonde et de tendresse véritable, eh bien, en 1145, Guillaume de Saint-Thierry se dit, il voit bien que son ami se dépense et puis il va être fatigué. Il sent bien aussi l'immense sainteté, l'aura spirituelle de son ami Saint Bernard. Il commence, sans lui dire, il commence à rédiger la vie, la vita de Bernard. Bien sûr, dans une idée après de béatification, lui, il ne sera plus de ce monde, mais il commence à rédiger la vie de son ami Bernard sans savoir que, à son insu, et Guillaume de Saint-Thierry mourra avant Saint Bernard. Ça, c'est très touchant. Et ce qui est très touchant aussi, c'est que ils sont aussi tellement proches et leurs âmes se sont tellement unies qu'il y a un très beau texte aussi qui pourrait vous toucher immensément et nous nourrit aussi, qui s'appelle la lettre d'or écrite pour les Chartreux et qui parle de silence, de contemplation. Et cette lettre d'or a été pendant très longtemps attribuée à Saint Bernard, alors qu'elle est le fait, elle est de Guillaume de Saint-Thierry. C'est-à-dire qu'il y a une telle intimité des âmes que l'on pensait, on a attribué à Saint Bernard des œuvres de Guillaume de Saint-Thierry, qui est resté un peu moins connu, mais qui est une immense figure, Guillaume de Saint-Thierry. Voilà. Et je ne peux pas non plus parler de l'immense amitié entre Simone Veil et le père Perrin. hein, le dominicain. Et c'est grâce au Père Perrin, puisqu'elle meurt très jeune, à 34 ans, c'est lui qui publiera cette immense et magnifique lettre qu'il intitulera « Attente de Dieu ». Et de même, Jean Guiton aussi, qui a recueilli Simone Veil, qu'on avait écarté de l'enseignement pour ses origines juives, c'est Jean Guiton aussi qui va prendre des aphorismes, des réflexions de Simone Veil, et qu'il va publier après sa mort, bien sûr, « La pesanteur et la grâce ». Voilà, toutes ces correspondances, ces textes magnifiques que l'on doit, j'ai parlé aussi de Charles Péguier et d'Alain Fournier, que l'on doit à cette amitié. Voilà. Alors pour terminer, là bien sûr nous avons parlé avant tout de témoignages concrets, de fruits visibles, mais, vous savez bien qu'après ces marques tangibles, visibles, concrètes et ô combien importantes, il y a les fruits invisibles de l'amitié spirituelle, les fruits invisibles. Et cette fécondité invisible, qui est aussi importante, signifie que deux amis, ou plus d'amis spirituels, rayonnent, c'est-à-dire qu'ils répandent autour d'eux des biens immatériels, les biens immatériels, et que leur propre amitié témoigne, c'est le signe, à ce signe vous les reconnaîtrez, à ce signe vous les reconnaîtrez, qu'ils s'aiment les uns les autres. Et l'amitié spirituelle, en effet, la façon dont deux ou plusieurs amis spirituels s'écoutent, se respectent, se stimulent, s'élèvent l'un l'autre, font progresser la lumière de Dieu en ce monde. Vous savez, vous devez connaître, je pense, cette magnifique figure toute contemporaine du prêtre suisse Maurice Dundel, grand mystique, et qui dit quelque chose de tellement important, entre autres, tout ce qu'il dit est magnifique, et quelle figure d'humilité. Il dit, dans la mesure où je m'élève, j'élève le monde. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire notre espérance aussi, parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas sensationnel. Dans la mesure où je m'élève, j'élève le monde. J'allais dire, a fortiori, si deux amis spirituels s'élèvent, ils élèvent le monde. Et pas en se regardant l'un l'autre, mais justement en propageant, en faisant ruisseler ces biens immatériels pour l'élévation et la transfiguration du monde. Rien de moins. La tâche est haute. Et alors, parmi ces biens immatériels, eh bien, il y a l'amour, il y a la justice, la paix, la joie. Et puis, n'oublions pas, ils peuvent aussi offrir au monde le silence, le don du silence. Le silence qui manifeste la transparence de l'âme à la splendeur de Dieu.